De retour sur le 99.5 Radio Campus Tour, toujours dans les locaux du Petit Fauchot, et avec Mélissa, avec Julien, et avec pas un mais deux musiciens, puisqu'on est avec une partie en tout cas de Ultra Light Blazer. On est en fin d'après-midi, donc peut-être vous avez déjà tombé votre veste, votre veston. Ultra Light Blazer, ça c'est la petite veste, la petite veste légère. On va accueillir Jonas et Eda. Je vais laisser chacun se présenter.
Bonjour, moi c'est Jonas, je suis saxophoniste et compositeur d'Ultra Light Blazer.
Et moi c'est Eda, je suis rappeur de Ultra Light Blazer.
Le MC de Ultra Light Blazer. Vous êtes un peu plus nombreux dans le groupe, il y a d'autres personnes qui sont pas présentes. Vous avez quoi d'autre comme accompagnement, instrument, musique?
On est cinq, c'est un quintet. Il y a Mathieu Debordes au clavier, Julien Serrier à la batterie et Guillaume Marin à la basse.
Pour faire rappeler à nos auditeurs, peut-être à faire un petit peu la genèse de ce groupe, depuis combien de temps vous êtes ensemble et comment s'est constitué, s'est formé ce groupe?
En fait, tout est parti d'un ensemble instrumental qui s'appelait Light Blazer, on était sept. J'ai rencontré après Edash et on s'est dit que c'était super, qu'il fallait qu'on travaille ensemble. On a une petite histoire de rencontre assez sympa qu'on pourra raconter, qui intéressera sûrement les auditeurs.
Bien sûr.
Et après, on s'est dit que il y avait beaucoup trop de musiciens dans le groupe, que c'était peut-être bien de passer sur quelque chose de plus capitaliste. Donc on a viré des gens comme ça. On les a mis à la rue, puis on s'est retrouvé à 4. Et puis là, on s'est dit qu'il manquait peut-être un petit quelque chose, donc on s'est retrouvé à 5. Voilà, ça fait 8 ans que ça existe, plus sérieusement. Et sous cette forme actuelle, ça fait 4 ans.
J'allais vous demander où en était votre campagne de crowdfunding, mais je tiens dans mes mains un objet plutôt sympathique, donc l'album Patience. Donc j'imagine que la campagne de crowdfunding pour la sortie de cet album a bien fonctionné. Comment ça s'est passé
Ça c'est fini, on a atteint notre objectif et quelques petits euros de plus, donc c'était vraiment très cool. On a pu financer une grosse partie de promotion qui nous permet là de prendre un curateur pour essayer de rentrer sur les playlists de Spotify et autre chose de ce genre, et puis donc on est plutôt hyper content.
Ouais,
on est parti en vacances,
des Seychelles. c'était beau.
Donc là pour l'instant vous êtes sur une actu qui est hyper chaude, puisque donc l'album une date de sortie déjà,
le 18 juin,
et puis des titres qui commencent à sortir un petit peu comme ça au compte-gouttes qu'on voit apparaître. Alors vous excuserez mon anglais, Brass Knuckles et
alors là c'est là, normalement ça c'est pas possible.
Comment?
Non. C'est pas possible, donc on n'a pas le droit. Edash, si tu veux faire une démonstration s'il te plaît.
C'est Brass Knuckles.
Brass Knuckles.
Ouais. Beaucoup mieux.
Ouais, déjà, beaucoup mieux. Et puis, un autre titre, Loot.
Plus simple. Excellente prononciation sur celui-là.
Ouais, pas du tout.
Si, quand même.
Ouais, 4 lettres, c'était un peu plus facile. Ouais. Loot, d'ailleurs, c'est du slang. C'est le fric, c'est le pognon.
C'est ça.
Qu'est-ce que nous raconte ce titre? Parce qu'on est très intéressé du coup là aussi, tout là par l'argent, là ça nous parle.
Mais en fait, c'est du fric, mais c'est aussi du, comment on dit, vandalisme. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu de mots en soi, quoi.
Okay.
Parce que voilà, on parle de, d'un côté on parle de l'argent, du confort et tout, et de l'autre côté on parle de l'inconfort justement, voilà. Donc voilà, donc c'est un jeu de mots, donc il fallait jouer avec ça.
Bon, c'est un titre, peut-être, c'est un peu à l'image de l'époque de laquelle on vit, une époque peut-être d'hyper fric et aussi d'inconfort et d'insécurité quand même.
C'est toi qui le dis.
Ah mais du coup je tends une perche. Hein,
Oui, carrément. C'est bon, après c'est une observation. Hein. Est-ce qu'on vit ça ou pas? C'est à chacun de se faire son idée. Mais en tout cas, le film auditif, genre le film sonore, et voilà, parle de ça, quoi. en disant qu'en fait, au final, voilà, on dirait que les choses sont binaires à chaque fois, au point où on commence à même se perdre dans les mots, justement, genre, bah, voilà, loot.
Voilà.
On parle d'argent, est-ce qu'on parle de
vandalisme,
struggle, voilà.
Trouble.
Le trouble, la lutte. Mm. Voilà, donc c'est soit l'argent, soit c'est la lutte. Et tout le monde se retrouve d'une manière ou d'une autre.
J'avais une question justement qui portait sur la rencontre des différents membres du groupe. Jonas t'évoquait il y a quelques minutes que la rencontre avec Edash était bien singulière. Du coup, peut-être nous en parler.
Alors, on s'est aperçu la dernière fois qu'on n'était pas d'accord sur l'historique, parce que ça commence à faire longtemps. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on était tous les deux à une jam. Et donc moi, je crois que j'ai entendu Edash et je me suis dit que c'était vraiment ce qui manquait à ce groupe qu'on avait, Light Blazer, la formule plus grande.
Merci.
Et du coup, il est parti, je crois, ou alors c'est moi qui suis parti, on ne sait pas. Avant, en tout cas, on n'a pas pu s'échanger nos numéros. Et le lendemain, on s'est rencontrés dans le métro.
C'était 2 jours après.
Même là-dessus, ils ne sont pas d'accord.
Mec, on fait tout. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rencontrés sur la ligne 13. Et j'ai dit, hey, c'est toi, mais je voulais te brancher. Tiens, on a échangé les numéros.
J'aimerais bien préciser que c'était sur la ligne 13 à 9h du matin.
Ouais.
La ligne 13...
De Paris.
Oui, Paris. Ben, bien sûr, parce que c'est dans le rap, c'est une ligne de métro qui est mythique. Hein. Ça emmène vers le 18e.
Ouais. C'est... Bah, elle est mythique, pas que dans le rap, hein, elle est complètement mythique. Mais il n'y avait pas trop de monde ce jour-là. Et donc c'était marrant. Enfin, ce qui était marrant, c'est qu'on se revoit le lendemain comme une sorte de signe du destin, en fait.
Ouais, mais si, il y avait du monde, c'était vers 9h, 10h du matin, on était comme des sardines, moi je suis rentré à Saint-Lazare, toi t'es monté à Clichy, Porte de Clichy, voilà, en fait, faut me croire, c'est à moi qu'il faut croire. Parce
c'était
que c'est
peut-être
moi
dans le bus en fait.
Il y a une réécriture de l'histoire, hein. Ça constitue peut-être aussi la légende du coup, fondatrice du groupe.
Ouais.
Quel est le parcours musical un petit peu de chacun, en tout cas de chacun d'entre vous, puisque vous êtes ici pour pouvoir nous en parler.
Vas-y, Nash.
Moi, je sais pas comment raconter ça. Genre, bah voilà, moi j'ai fait du rap, mais sur pas mal de genres de musique, jusqu'à que voilà, à un moment je me suis retrouvé à faire ça sur du jazz. Donc voilà, j'étais dans un groupe qui s'appelle The Latitudes. Par exemple, avant ça, j'étais dans un autre groupe qui s'appelle Loading Zone, qui avait genre un guitariste de Gunwood Circle, Gunnar. Et puis après, j'ai travaillé en studio pendant 2-3 ans. À enregistrer avant de commencer avec les études. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à jouer avec Jonas dans le jazz où, pour la première fois, il fallait que j'écris sur la musique impaire. Et voilà. Voilà, ça m'a fait grandir, j'espère.
Parce qu'on peut préciser aussi à nos auditeurs que Ultra Light Blazer, ça, il y a une sonorité... jazz, mais avec donc le rap, toi t'es MC, avec donc ton flow qui vient sur les instrus, effectivement sur des rythmes impairs, donc c'est quelque chose qui est pas toujours, j'imagine, facile. Donc voilà, enfin l'empreinte, la patte musicale d'Ultra Light Blazer, je sais pas comment vous la définissez, mais
c'est pas que il y a des rythmiques impairs, mais on a quand même des morceaux dans du bon vieux 4/4. En fait, ce qui nous plaît, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition. Évidemment, donc Steve Coleman, c'est moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'adore Frank Zappa aussi, donc c'est des métriques qui changent tout le temps. En tout cas, c'est une musique où il y a pas mal de ruptures. On aime bien emmener les gens d'un endroit à un autre. Mais c'est pas vraiment qu'un truc de métrique composée, quoi. Mais c'est pas pourquoi, quand on s'est rencontrés, j'avais pondu un truc en 5 et bah, tu t'en es bien sorti quand même.
J'espère. D'ailleurs, c'est le deuxième morceau sur l'album. Mais quelque part, voilà, la musique, elle est un peu expliquée par justement
la pochette.
La pochette.
En fait, sur la pochette, il y a un chat qui attend devant un trou de souris. Parce que Edash, souvent en concert, dit qu'on joue un peu au chat et à la souris avec le public, en fait. On les emmène quelque part et bim, tout d'un coup, on les emmène autre part.
Voilà. Donc voilà, c'est une musique qu'on peut écouter en voiture avec ses potes, comme on peut l'écouter tout seul, parce que voilà, c'est du jazz, quoi. Mm. Donc, le jazz, c'est genre... c'est, moi, quelque part, je sais pas pour les autres, mais quelque part, je l'imaginais comme ça. J'imagine le jazz un peu comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est une musique qu'on peut écouter juste comme un fond sonore ou dans une voiture avec des potes. Mais par contre, quand on est seul, par exemple, ou avec des gens qui sont aussi intéressés, on suit un petit peu certains éléments. Et je trouve que, en tout cas, personnellement, je trouve que là-dedans, c'est vraiment ce jeu-là, quoi, où on est sur du 4-4, et puis voilà, ça devient un pair, et puis à un moment, il y a du synchro entre les cinq musiciens, en fait, il y a plein de trucs qui se passent. Justement, dans le morceau Patience, là, on le vit vraiment, genre, où il faut suivre la musique pendant son évolution, voilà.
Et vous parlez de jeu de chat et la souris avec le public. Est-ce que vous-même, dans le groupe, entre les personnes qui sont aux instruments, et toi, Edash, qui est au micro, il y a aussi un jeu de chat et de souris qui s'instaure ou c'est toujours, vous essayez toujours d'être synchrone, d'être accord
Bah, il y a un peu les deux. C'est quand même assez écrit. Et puis il y a des grosses plages d'improvisation aussi, on peut se permettre, mais plus un jeu musical collectif plus largement. Mais c'est quand même assez écrit.
En fait, avec la musique que vous faites, vous êtes aussi une des preuves que la musique ne se range pas toujours dans un seul tiroir, à une époque où c'est vrai qu'on fait beaucoup de... On met les choses comme ça dans des tiroirs, dans des niches, en fait, où... Vous pétez un petit peu ce truc-là pour montrer qu'on peut faire plein de choses très différentes dans un seul album.
Bah après, c'est pas une volonté, c'est simplement que c'est ce qui sort de nous, c'est ça. C'est vrai qu'on aime bien ranger les choses dans des cases. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans les festivals de jazz, bah c'est vrai qu'on fait pas, on n'a pas une étiquette de jazz au sens où on l'entend. Et dans le rap, on n'a pas non plus une étiquette rap au sens où on l'entend. Donc c'est un peu dur de se classer, mais on trouve quand même le public pour ça. Mais vraiment, ce n'est pas une volonté de casser, c'est ce qui sort, quoi, hein, c'est ce qui sort de nous. Et là, au bout, en fait, ça fait 8 ans, on a beaucoup, beaucoup joué. Donc on est arrivé à un stade, je pense, où on livre vraiment un truc très, très honnête et très personnel de nous, quoi.
J'ai lu aussi qu'au-delà du groupe Ultra Light Blazer, chacun de vous faisait partie d'autres formations avec le collectif Veston Léger. J'ai vu notamment, un 112 Brass Band, ouais. Où là, vous dites puiser dans la musique de James Brown, George Clinton. Donc là, c'est des trucs qu'on voit, qui sont beaucoup plus funk, soul. C'est aussi des échappatoires pour chacun, pour exprimer d'autres choses.
Je ne sais pas si échappatoire, c'est le mot. En tout cas, c'est des choses qui nous font vraiment plaisir. Le 112 Brass Band, il y a cette étiquette un peu aussi New Orleans, un peu actuelle, ou vraiment fanfare, brass band. Voilà. Mais ce n'est pas un échappatoire, c'est plus carrément un plaisir d'aller faire ces choses-là. Après, on a chacun d'autres projets à côté.
J'ai lu que Dash avait fait du rap au Malawi. C'est un pays dont on parle très peu et on parle encore finalement assez peu de la scène rap en Afrique, même si la scène sud-africaine et maghrébine commence à émerger un petit peu. Est-ce qu'il y a des artistes aussi dans cette région de l'Afrique qui t'inspire ou comme beaucoup c'est ce qui se passe du côté des États-Unis qui forme l'oreille musicale?
Ouais, mais moi j'ai été formé par les années 90,
oui.
Donc voilà, à ce moment-là il n'y avait pas, voilà, c'est, il y avait pas Il n'y avait pas de rap, vraiment. Y avait, en fait, il n'y a pas suffisamment. En fait, il y a du rap partout. En Afrique, il y a plein de rap. Au Malawi, je sais pas, ça a plus que doublé, ça s'est multiplié exponentiellement. Il y a plein de gens qui rappent maintenant. Mais par contre, comme chaque industrie, ils ont besoin d'infrastructures qu'on peut trouver, genre justement, comme je dis, au Maroc, en Afrique du Sud, en Nigeria. Mais dans des pays qui sont en train de développer, il n'y a pas l'infrastructure pour exporter tout ça, malgré le Facebook et tout. Mais c'est-à-dire qu'en fait, après un moment, il faut quand même l'infrastructure pour que les choses sortent. Mais au niveau de l'inspiration, mais moi je suis vieux, c'est les années 90 qui m'ont inspiré.
Ça va, je me sens concerné aussi, on va...
mais je voulais juste rajouter un truc, oui. le pavé dans le marbre, c'est ça, dans le marbre, voilà. Moi, je trouve, tout à l'heure, tu parlais du fait que Balo en catégorise tout et tout, machin, machin, et que ça, l'album, peut-être, suit pas forcément ces catégories-là. C'est vrai, mais moi, ce que je voulais rajouter, c'est... ça, c'est sorti naturellement, c'est comme disait Jonas, en disant que, en fait, c'est juste notre expérience. Et je trouve que c'est quand même ironique que dans un monde où on a autant de choix... De vie, on se retrouve avec juste quelques catégories de musique, alors que forcément on a beaucoup plus de choix que les années 90, même les années 60, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce que moi je trouve une pauvreté de variété, quoi. Donc voilà, c'était juste un truc que je voulais rajouter en disant que nous on l'a juste fait par rapport à notre expérience dans un monde qui a beaucoup de choix. Ouais, je trouve ça curieux que dans un monde où il y a beaucoup de choix, il y a une pauvreté de cette variation qu'on pourrait avoir aujourd'hui, quoi.
Et justement, puisqu'on parle de choix, pour les auditeurs qui feraient le choix de vous écouter, est-ce que avec voilà, les règles qui commencent à s'assouplir avec la sortie de l'album, il y a des scènes où prochainement on peut aller vous écouter, vous voir.
Ouais, il y a pas mal de petits concerts qui tombent. Il y a le 19 juin au Château d'Eau, à Blois. On a un report du Temps Machine l'an prochain, mais on ne sait pas encore quand. Le 21 juin, on joue dans un chouette lieu à Amboise, notre fief, qui s'appelle La Charpente, pour la fête de la musique. On a une petite tournée dans le sud-ouest fin août. Voilà ce qui me vient. Il y a deux, trois autres petits trucs. Altitude Jazz Festival, un report aussi de l'année dernière. Donc ça, c'est dans les montagnes.
À Briançon.
Briançon, ouais, c'est ça. Voilà à peu près les trucs. Mais le plus proche, c'est Château d'Eau à Blois.
Ok, chouette salle.
Super.
Donc, Julien, je crois que tu avais des questions aussi à poser à Ultra Light Blazer.
Effectivement, c'est à mon tour de poser des questions. Moi, je voulais poser des questions un petit peu plus, moins sur la musique, j'avoue, mais un peu plus d'ordre pragmatique, on va dire. C'est vrai qu'on a traversé une année un peu difficile. Vous, comment vous avez vécu votre processus artistique, votre processus de création pendant cette période de confinement, déconfinement, salle fermée, à moitié ouverte? Comment ça s'est passé? Vous avez pu continuer à créer, à imaginer des choses, ou est-ce que c'est une ambiance qui vous a pas permis de créer des choses, justement?
La vraie réponse ou...
C'est mieux, la vraie.
Bah moi, c'était
pas obligé. Hein,
je suis pas obligé, bon, parce que ça va plomber l'ambiance.
Ouais, non.
C'était... En tout cas, moi, personnellement, c'était hyper... Au niveau vraiment processus purement créatif, c'était vraiment hyper déprimant. Déjà que pour créer, il faut être dans une bonne vibration. Là, c'était pas... Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'était juste pas possible, quoi.
Ok.
Voilà.
Ça a compliqué un petit peu le processus de sortir l'album, parce que voilà, normalement, on se retrouve pour mixer, pour faire les trucs, machin, machin. Ouais. Là, c'était visio.
Ouais, on a dû mixer à distance et tout. Enfin, ça, c'était vraiment... Bon, on s'en est sorti, mais ouais, c'était hyper... Enfin, pour le 10, c'était compliqué pour tous les concerts. enfin, plein d'incohérences, c'était hyper compliqué à vivre.
Ça a repoussé un peu la sortie de ce disque, vous auriez voulu le sortir plus tôt que ça?
Ouais, carrément plus tôt. On avait prévu de le sortir presque il y a un an en fait. Hein.
Ok.
Mais on s'est dit on va le repousser, puis là il sort, on sait même pas si... Bon là, il y a quand même de grandes chances qu'on puisse jouer, mais c'est toujours incertain. Mais à un moment, faut sortir le truc quoi.
C'était quand vous votre dernière scène, la dernière fois que vous avez pu jouer devant le public? La réflexion est en cours.
Ouais. C'était peut-être. Je sais pas, c'était à la gare Judd.
Ouais, mais ouais, c'était avant le confinement.
Avant le confinement à Paris. On joue souvent à la gare Judd à Paris, un chouette lieu là.
Ok.
Et ça doit être la dernière scène qu'on a fait.
Donc là, vous espérez en faire dans les semaines à venir, réouvrir ce lieu. Il y a eu une année blanche qui avait été décrétée pour les intermittents du spectacle, c'était l'année dernière. Cette année, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé. Est-ce que vous pensez que cet été, qui s'annonce un peu plus positif pour le monde de la culture, va réussir à sauver pour vous votre année?
C'est dur de se prononcer là-dessus.
Bah non, on peut se prononcer. Moi, ça va sonner... Enfin, peu importe finalement si j'arrive à sauver mon année ou pas, ça va mettre des gens de toute façon dans la merde, hein, faut le dire. C'est quand même un peu grave de pas. Bon après on est, enfin je sais pas. Moi je trouve ça grave qu'on la repousse pas parce que ça veut dire que là des gens vont être obligés de faire leurs heures en 4 mois quasiment quoi.
Ouais.
Alors que normalement on en a 12. Voilà, j'ose même pas le dire parce qu'on nous traite de privilégiés, de trucs, mais finalement c'est vrai. Normalement on a 12 mois pour faire nos heures. Alors ils vont aller chercher, mais plein de gens vont se retrouver au taux minimum. Ça va mettre plein de gens, des gens vont perdre de l'argent et se retrouver au taux minimum alors que normalement ils bossent quand même correctement. Quoi.
Ouais.
Donc ça c'est quand même flippant. Après là il y a des gens qui militent, il y a des occupations de théâtre des fois qui se passent pas très bien, notamment à Tours. On espère que ça va bouger quand même.
On espère que ça va bouger ouais, pour vous aider et puis pour pouvoir faire toutes ces heures. J'imagine cependant au-delà de ça que c'est un plaisir pour vous de retrouver le public. Ça fait plus d'un an que vous n'avez pas pu avoir ce partage particulier entre le musicien et son public. Ça, vous l'attendez ce moment?
Bah ouais, on l'attend grave, on ne demande que ça, on est chaud bouillant. Là, en arrivant ici, on a assisté aux balances un peu du duo Finlam et je disais à Edash, ça fait un an en fait que j'ai pas entendu de gars jouer autre que nos projets en fait où on a travaillé ou d'entendre d'autres musiciens que nous quoi. C'était mortel. Enfin, les entendre 3 minutes en balance, c'était déjà génial. Et donc ouais, le public, puis les gens qu'on croise, ils ont envie quoi. Ils ont vachement envie.
Ça vous donne envie pour la suite?
Ah bah ouais, carrément. Après c'est les conditions, 4 mètres carrés par festivalier. Qu'est-ce que ça va être? Nous, on joue pas mal devant du public debout, quand même. On va voir l'ambiance que ça donne. Mais en tout cas, on est très, 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 très chaud. Et je sais pas si demain, on va pas tout péter, d'ailleurs.
On prévient, le message est passé au personnel du Petit Faucheux qui nous écoute. Attention.
Voilà. 4 mètres carrés par festivalier. Mais faut louer le Stade de France.
En fait, ce qui fait un peu peur avec ça, c'est que... ça fait un an qu'on n'a pas vu un groupe jouer, on n'a pas écouté de musique, mais et ça choque que quand on arrive. Bien sûr, le reste c'est juste la déprime, mais la déprime avec la bouche fermée, on n'en parle pas beaucoup, et tout le monde ne peut pas en parler parce que ça rappelle la déprime, et ça choque quand on voit qu'en fait ça manque pour de vrai. Mais de le vivre comme un truc normal, parce qu'on le garde derrière la tête en se disant que bah, ça va s'améliorer d'une certaine manière. En fait, c'est ça qui fait un peu peur. C'est-à-dire qu'en fait, même à un moment, ce qui m'a fait peur un petit peu, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, il y avait un moment au début du confinement où on a commencé à vouloir lancer des concerts en Zoom et tout. Et qu'il y avait quand même une petite enthousiasme. Je n'ai pas vraiment suivi parce que moi, ça me déprimait. Mais par contre, de normaliser des trucs comme ça, je trouve qu'en fait, on perd beaucoup d'humanité. Alors que ce qui est marrant, c'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, que ça fait quand même l'humanité de partager la musique. La musique a toujours partagé beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce soit pour soulever l'esprit ou juste de, passer un message de dire qu'en fait on traverse ce truc ensemble. Tout ce truc-là, en fait, la musique a toujours été une partie de l'humanité, mais d'une certaine manière, et de faire passer ça par les ordinateurs, je trouve que c'est à un moment on va tout perdre, quoi. Donc moi j'espère que quand même les 4 mètres, j'espère qu'on va pouvoir se rendre compte sur le moment en disant que ben on peut pas faire 4 mètres. Moi je pour le coup je suis chaud bouillon, mais pour 4 mètres, ouais. 4 mètres carrés, je suis pas très sûr. Je sais pas comment jouer pour les gens qui n'ont aucune, genre zéro lien. J'ai jamais fait ça et ça risque de me choquer, c'est sûr, quand je suis sur scène.
Ouais.
Voilà. Juste pour dire. Donc voilà.
Tu préviens le public.
Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est 4 mètres carrés. Bah moi, je vais chanter de ma loge.
Si t'en as une.
T'as posé tout à l'heure, Seb, t'avais posé une question à Circe que je trouvais assez pertinente. Vous qui avez pas mal d'expérience quand même dans la musique et puis dans certains groupes, qu'est-ce que vous conseillerez à des jeunes qui font de la musique, qui ont envie de se lancer, de créer un groupe, de monter des choses, que ce soit dans le jazz ou non? Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Comment vous les guiderez?
Il faut être honnête avec son comment on dit, craft, dans son savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut en fait il faut d'abord être honnête, c'est-à-dire qu'en fait il faut être honnête au lieu de, c'est pas une question de pas d'attention, c'est en fait l'attention n'est pas la commodité première. On veut savoir ce qu'on en tout cas pour moi, pour les artistes qui durent, c'est des artistes qui sont honnêtes d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, moi, pour moi, il faut trouver un moyen d'être honnête avec son savoir-faire.
Ok. Et pour toi?
Moi, je dis, ce serait plutôt d'ordre pratique, se mutualiser, se mettre en collectif. C'est plus d'ordre pratique pour monter des projets, se serrer les coudes, se servir des forces de chacun. C'est pour ça que moi, le modèle du collectif, je le trouve hyper intéressant pour les jeunes musiciens et j'encourage vraiment. Il ne faut pas rester seul dans son coin. Il y a plein de choses qui existent, plein de structures qui peuvent aider les artistes, les salles de spectacle, les réseaux, les différents réseaux culturels. Donc, il faut solliciter tout ça pour comprendre un peu comment ça marche, parce qu'une fois qu'on a compris, on voit qu'il y a des aides qui peuvent être précieuses, quoi.
Pour le développement de ces nouveaux artistes. D'ailleurs, vous, alors, est-ce que vous avez quoi comme parcours? Est-ce que vous sortez plutôt de conservatoire, école de musique et tout? Est-ce que vous êtes un peu plus sur de l'apprentissage comme ça, un peu autodidacte? Comment vous avez découvert la musique, vous?
Moi, mes parents aimaient bien la musique, les deux, donc ils en écoutaient pas mal. Puis après, j'ai réussi de brillantes études au conservatoire, haut la main. Donc, je suis sorti haut la main avec un diplôme.
Ok. Et
non, c'est pas forcément.
C'est un parcours comme un autre.
Ouais, non, c'était pas des études brillantes. J'ai pas été un très gros bosseur, mais en tout cas, oui, conservatoire municipal à Paris avec une grosse école de jazz. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt de jazz. Après, j'ai fait un peu d'écriture classique. Ça m'a ouvert pas mal les oreilles. Et puis, j'ai toujours bien aimé un peu tous les styles de musique, un peu touché à tout. Voilà.
Et ouais, vas-y.
Moi, c'était le conservatoire de hip-hop des années 90, vraiment. Mais voilà, à part ça, voilà, mais moi aussi, mes parents, ils kiffaient la zik. Du coup, j'ai commencé, même avant le rap, j'ai commencé avec d'autres trucs, comme même les Kenny Rogers, Paul Simon, Ali Belafonte, on chantait ça tout le temps. Et puis voilà, le rap dans les années 90, la curiosité, en fait. Ouais. Moi, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours voulu savoir et j'ai toujours voulu poser des questions. Et je continue à en poser des questions. J'aime bien découvrir. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais même pas si on peut dire que je fais la musique. En fait, la musique, c'est juste une voix qui me permet d'aller poser des questions, quoi.
Okay.
Donc, voilà. C'est surtout le conservatoire de la curiosité.
Belle métaphore. On va rester le conservatoire de la curiosité, qui est peut-être le meilleur de tous les conservatoires pour Carin. Découvrir toutes les musiques. Avant de se quitter, on va écouter un titre de votre nouvel album Patience. On va écouter un titre dont on a parlé. On va écouter Loot. On va peut-être rappeler un petit peu le jeu de mots qu'il y avait autour de ça. Donc, c'était à la fois le trouble, l'insécurité, comme c'était aussi le pognon, le flic.
J'avais écrit pour le truc, là. C'était... je me rappelle. Ben ouais, c'est ça. C'est la lutte et le pognon. Quoi. Genre, voilà. C'est ça. C'est un double... double entendre.
Double sens.
C'est un double entendre.
Eh ben, on va écouter ça. Juste avant d'écouter ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Bah que cet album se diffuse le plus possible. Voilà, parce qu'on sait très bien que ce qui compte, c'est de plus en plus, c'est les écoutes, les followers, les trucs. Bon, c'est un peu naze, mais ça marche comme ça. Donc, on va essayer que ça fasse le plus d'écoutes possible pour avoir le plus de concerts possible et qu'on puisse nourrir nos familles, enfin.
Aider Ultra Light Blazer.